Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 5 juin 2021. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur Radio SBS. Dans le programme, nous parlerons de tennis. Pourquoi est-ce une si mauvaise année pour les Français et les Françaises à Roland-Garros? Et nous ferons un détour vers l'année 1967 et le début de la guerre des 6 jours. C'était aujourd'hui, en 1967. Mais pour l'heure, passons au journal. Et on débute ce journal avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les autorités sanitaires du Victoria qui continuent d'enquêter sur l'épidémie donc de coronavirus à Melbourne avec 5 nouveaux cas de transmission communautaire qui ont été enregistrés. La Russie qui demande l'approbation à l'OMS pour son vaccin contre le Covid-19, le vaccin Sputnik 5. Et en sport, plus les gagnants et les perdants de l'Open de France de Roland-Garros qui se poursuit en ce moment même, donc à Paris. Je vous le disais donc en titre, le Victoria qui a enregistré 5 cas de coronavirus acquis localement pendant la nuit sur plus de 36 000 tests effectués. Plus de 24 000 doses de vaccins ont été également administrées hier sur des sites gérés par l'État, alors qu'un nouveau variant du Covid-19 a été étudié donc à Melbourne. La souche Delta du Covid-19 a été identifiée dans une famille de West Melbourne qui a été testée positive après avoir voyagé dans des régions de Nouvelle-Galles du Sud. C'était le mois dernier. Cela signifie que les autorités sont désormais confrontées à 2 souches hautement infectieuses, le Delta et Kappa. On écoute la docteure Lewin.
I think from the UK data we're getting very clear evidence that both the Kappa and Delta strains are about 50% more infectious. And the report is that there is increased hospitalisation, about 2.6-fold increased hospitalisation in people with Delta compared to the UK strain or Alpha. And these are based on quite small numbers, so there may well be errors.
Voilà donc le docteur Lewin. Sur le plan de la vaccination, le programme a été élargi aux Australiens de plus de 40 ans à travers le pays et à partir de la semaine prochaine. L'expansion du programme de vaccination donc le mettra en conformité avec plusieurs États, dont le Victoria. Le vaccin Pfizer sera mis à disposition des personnes âgées entre 40 et 49 ans, donc à partir de mardi, le 8 juin. Toutes les personnes d'origine aborigène ou insulaire du détroit de Torres âgées de 16 ans et plus ont désormais accès au vaccin, ainsi que les bénéficiaires et les soignants du régime national d'invalidité. On parle également du blitz de vaccination de 5 jours qui a été destiné aux personnes travailleurs de soins, aux personnes âgées dans le secteur privé et aux travailleurs autour des personnes handicapées. Ça a été une chance d'accélérer leur vaccination contre le Covid-19. Le ministre du Victoria de la Santé, Martin Foley, a déclaré que 10 000 travailleurs de santé, donc auprès des personnes âgées, avaient été vaccinés dans l'initiative. On l'écoute.
The blitz was due to finish tomorrow, but this group are continuing to come out in such strong numbers that we will extend that blitz to include Monday for that group of workers. Can I take this opportunity to encourage all private sector, indeed all aged care workers and disability care workers to come forward, continue to come forward to make the best use of this priority access lane.
Le ministre de la Santé du Victoria, Martin Foley. La Russie espère faire enregistrer son vaccin Sputnik 5 par l'Organisation mondiale de la santé dans les prochains mois. Kirill Dmitriev, le PDG du fonds d'investissement direct russe, qui a d'ailleurs financé ce vaccin, a déclaré que si le vaccin était enregistré, la Russie serait heureuse de fournir des quantités de vaccins à l'Europe. On l'écoute.
We are completely open with WHO, with EMA. They visited our facilities, they looked at our clinical data, and this is a spirit of transparency. So we expect some decisions hopefully in the next couple of months. So far we see that the teams are very professional, are very technical, they have great questions, they haven't had any major critical comments so far, and we hope that this proceeds in this technical professional manner and no politics is involved.
Voilà, donc Kirill Dmitriev, le PDG du fonds d'investissement direct russe qui a financé le vaccin Sputnik V. Le directeur d'ailleurs de général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, n'a pas confirmé de date, mais a déclaré que l'OMS examinerait la question. On l'écoute.
We hope that, you know, as soon as the team is back to Geneva, they will start processing the information they have. You know, from the inspection plus the information they will receive, because there are more information they're asking. So I cannot say the date, but I know they will do their best to facilitate the process.
Voilà donc pour l'OMS. 13h06, le Japon a envoyé 1,2 million de doses de vaccins à Taïwan, une manière de défier la Chine. L'île de Taïwan revendiquée par la Chine, eh bien, manque de vaccins pour faire face à un regain de l'épidémie. Et le gouvernement taïwanais accuse Pékin d'interférence dans les commandes. Alors Tokyo se pose en tant que solution. Les explications, Adrien Simor.
C'est d'abord un véritable soulagement sur le plan sanitaire. Depuis plusieurs semaines, Taïwan fait face à une pénurie de vaccins en pleine résurgence de l'épidémie. À peine 3% des Taïwanais ont ainsi été vaccinés. Mais le geste du Japon est aussi éminemment politique. Ces dernières semaines, Pékin tente en effet d'avancer ses pions en proposant de fournir des vaccins aux Taïwanais. Une offre refusée par l'archipel qui insiste pour traiter directement avec les fournisseurs. La semaine dernière, Pékin a ainsi fait part de son opposition au plan japonais, estimant que c'est à la Chine d'assurer l'approvisionnement de Taïwan en vaccins. Le Japon est finalement passé outre ses avertissements. Cette donation se base sur l'amitié entre le Japon et Taïwan, a même tenu à préciser le ministre des Affaires étrangères japonais. L'aide d'un autre soutien de Taïwan est désormais attendue, celle des États-Unis. Washington a promis hier une aide de 7 millions de vaccins à destination des pays asiatiques. Une partie sera destinée à son partenaire taïwanais.
Et c'était Adrien Simor pour RFI. Une réunion de deux jours des ministres de la Santé du G7 au Royaume-Uni a également abordé la question liée à la pandémie du Covid-19. Cette réunion précède le 47e sommet du G7 qui est prévu entre le 11 et le 13 juin 2021, donc au Royaume-Uni. Le secrétaire britannique de la Santé, Matt Hancock, a salué la décision du groupe de mettre en œuvre des changements qui accéléreraient la livraison de futurs médicaments. On l'écoute.
Well, this has been a really successful G7 summit of health ministers. A whole series of actions to help to tackle this pandemic and also to make sure we're better prepared for the future have been agreed. The one I'd point to is that we're changing the rules on how clinical trials are developed and delivered to make sure we can get drugs to market faster, so we can make sure that people can get medicines, new medicines, faster than they previously would be able to.
13h08, hier, des centaines de personnes se sont rassemblées à Hong Kong pendant la nuit pour marquer le 32e anniversaire de la répression meurtrière des manifestations sur la place de Tiananmen en Chine. On écoute cette réaction ou ces réactions depuis Hong Kong.
Last year and this year, they forbidden lights here in Victoria Park, but I myself will come here to memorize the death, so I'm here today.
Voilà, donc réaction depuis Hong Kong. Les compagnies aériennes biélorusses ne peuvent plus survoler l'espace aérien européen. C'est la dernière mesure prise par l'Union européenne dans l'escalade des tensions avec la Biélorussie après l'atterrissage forcé d'un avion et l'arrestation manu militari d'un journaliste en exil. Les explications de Pierre Benazet.
La décision a été prise par les 27 représentants permanents à Bruxelles, les ambassadeurs des gouvernements auprès de l'UE. La mesure est d'application à partir de ce samedi matin. Il fallait encore qu'elle soit finalisée par les services juridiques pour être inattaquable. Il est donc désormais formellement demandé aux autorités nationales de refuser le survol de leur territoire par un avion biélorusse de tout type, fret ou passager, de refuser le décollage et l'atterrissage. C'est donc la première étape pour la concrétisation de ces sanctions européennes. Les 27 devraient y ajouter la semaine prochaine une volée de sanctions personnelles à l'encontre de 8 responsables du détournement du vol Athènes-Vilnius et de plusieurs dizaines de responsables de la répression politique, à savoir gel des avoirs détenus en Europe et interdiction de visa pour l'UE. 88 Biélorusses sont déjà frappés de sanctions européennes, dont le président Alexandre Loukachenko. Il devrait y avoir aussi des sanctions sectorielles la semaine prochaine, par exemple interdiction d'importation de potasse biélorusse ou d'entrée en Europe de gaz russe qui aurait transité par la Biélorussie.
Et c'était Pierre Benazet pour RFI. En Birmanie, aussi appelée Myanmar, je vous rappelle, en Australie, les opposants à la junte au pouvoir déclarent avoir perdu confiance dans les efforts de l'Asie du Sud-Est pour mettre fin à la crise dans le pays, alors que deux envoyés régionaux ont rencontré les dirigeants militaires, notamment Ming Aung Hlaing dans la capitale du pays. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, a mené le principal effort diplomatique international pour trouver une issue à la crise donc, dans le pays, déclenchée par le coup d'État du 1er février. Le porte-parole du gouvernement d'unité nationale, le Dr Sassa, a déclaré que la voix du peuple de Myanmar doit être entendue lors de toute négociation sur l'avenir du pays. On l'écoute.
Again, so we appreciate for our ASEAN brothers and sisters willingness to help solve this problem. But against any discussions, any meeting about the future of the people of Myanmar must include the people of Myanmar. Voices must be heard.
13h11, deux décennies après la fin du Concorde, l'avion supersonique européen, on reparle de vols commerciaux à très haute vitesse. En effet, la compagnie aérienne United Airlines a acheté 15 avions capables de dépasser le mur du son, le tout avec de l'énergie renouvelable. Le projet devrait voir le jour en 2029. Éric de Salve.
Cet avion du futur rappelle furieusement son mythique prédécesseur. Même ligne élancée que le Concorde, même nez pointu, même turboréacteur et vitesse supersonique, Mach 1,7, soit deux fois le mur du son. L'appareil promet de relier Paris à New York en 3h30, comptez 6 heures pour un Tokyo-San Francisco. C'est une très jeune compagnie américaine, Boom Supersonic, fondée en 2014 et basée à Denver, qui fabriquerait ce jet de 55 passagers. La compagnie United Airlines en a déjà commandé 15 avec une option sur 35 autres pour un prix catalogue de 200 millions de dollars pièce. Mais cette commande ne lève pas pour autant les nombreux doutes sur la viabilité de cette nouvelle tentative de relance des vols supersoniques. L'appareil baptisé Ouverture n'a pas encore été certifié par les autorités. Il ne devrait sortir de l'usine qu'en 2025, effectuer son premier vol en 2026 avec un objectif de mise en service en 2029. Il s'agirait alors du premier vol commercial supersonique depuis le dernier du Concorde. C'était en 2003, 3 ans après le crash qui avait mis fin à son exploitation.
Allez, un mot de sport pour conclure ce journal. En tennis, tout d'abord, les favoris Stefanos Tsitsipas et Serena Williams se sont qualifiés pour le prochain tour de Roland-Garros. Tsitsipas a remporté son match contre l'Américain John Isner, alors que Serena Williams a battu sa compatriote Danielle Collins. Le numéro 2 mondial de 25 ans, Daniel Medvedev, passe lui également face à Riley Hawke. Pendant ce temps-là, le numéro 1 mondial Novak Djokovic affrontera aujourd'hui Ricardas Berankis. Ce sera donc au troisième tour de Roland-Garros. Et le numéro 3 mondial Rafael Nadal sera également en lice aujourd'hui contre le Britannique Cameron Norrie. Vous l'avez noté, il n'y a plus de Français dans cet Open de Roland-Garros. On se posera la question, on essaiera de trouver des réponses, à savoir pourquoi tout de suite après ce journal. En cyclisme, le Dauphiné, qui est d'ailleurs en direct tous les soirs sur SBS Vice, l'Espagnol Alessandro Valverde a maîtrisé l'arrivée à la montée de Sapé en Chartreuse pour remporter sa troisième victoire d'étape sur les routes donc, du Dauphiné, 13 ans après sa dernière victoire dans cette épreuve. Encore une fois, le rythme a été implacable pendant toute l'étape, 50 km très exigeant. L'ancien maillot jaune Lucas Poldberger a perdu son maillot jaune et bleu de leader face à Alexei Loukchenko de Astana. On écoute également la réaction du Français David Godu, leader de l'équipe Groupama française des Jeux.
Pour l'instant, ça va. On a fait un bon chrono. On a su éviter les étapes piégeuses, les endroits piégeux. On a su être au contact du peloton les journées où il fallait. Donc, pour l'instant, on n'a pas perdu de temps à part sur le chrono. Donc, c'est maintenant et c'est aujourd'hui que les choses sérieuses ont commencé. On va arriver dans les bosses. Il va faire chaud. Il y a peut-être des risques d'averse en fin de journée. La montée finale, elle n'est pas forcément en termes de pourcentage la plus dure, mais on sait pas comment ça va courir. Là, même si la montée finale n'est pas forcément la plus dure, on est déjà au sixième jour de course. Il y a eu la chaleur qui a affaibli pas mal les organismes. Il y a eu le chrono. Il y a un risque d'avoir un gros départ d'étape. Donc, dans le final, ça risque de faire mal.
David Godu, le français, je vous rappelle que le Dauphiné, c'est tous les soirs, notamment à 9h20 ce soir, donc à 21h20 sur SBS Weissland. Coup d'œil météo pour aujourd'hui à Perth, il fera 21 degrés, Adélaïde 18, Melbourne 14, Hobart 16, Canberra 11, Sydney 18, Brisbane 22, Cairns 27 et Darwin 31 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les autorités sanitaires du Victoria qui continuent d'enquêter sur l'épidémie donc de coronavirus à Melbourne alors que 5 nouveaux cas ont été dépistés aujourd'hui. La Russie qui demande l'approbation à l'OMS de son vaccin Covid-19, le vaccin Sputnik 5. Et on vient de l'entendre, le Dauphiné libéré, le critérium du Dauphiné, la course cycliste qui continue sur SBS tous les soirs. 13h15, on se retrouve dans quelques instants, on fait un point sur le tennis.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Journal des sports et aujourd'hui journal des sports un petit peu spécial, plutôt que de refaire un retour sur les résultats, on va faire un retour sur le tennis et cette nouvelle pluie de Français en fin de semaine, fin de première semaine à Roland-Garros. Ça n'était tout simplement jamais arrivé dans l'histoire de l'ère Open depuis la fin des années 60. Alors comment expliquer ces mauvais résultats? Assistons à une crise du tennis français? Élément de réponse au micro de RFI avec Julien Varlet, il est consultant tennis à Canal+ International. Il est également entraîneur de la French Touch Academy.
Ne cherchez pas, il n'y a plus aucun Français en compétition. Tous ont été éliminés ou dès le premier tour, même si certains ont pu atteindre le deuxième. Mais voilà, l'élimination de Richard Gasquet face à Rafael Nadal a sonné le glas de tous les espoirs français. Pourquoi le tennis français va mal? On va essayer de répondre à cette question avec notre invité Julien Varlet. Bonjour.
Bonjour.
Ancien joueur de tennis, aujourd'hui vous êtes consultant pour Canal+ International et puis vous êtes aussi entraîneur pour la French Touch Academy, on en parlera un peu plus tard. Ce troisième tour sans aucun Français, c'était prévisible selon vous? Est-ce que d'ailleurs c'est déjà arrivé dans l'histoire de Roland-Garros?
Ben, malheureusement non, c'est jamais arrivé, donc c'est bien dommage que ça arrive en plus avec ce nouveau central. Maintenant, prévisible, oui, tout simplement, parce que quand on regarde tous les résultats des joueuses et des joueurs dans les tableaux, à chaque fois, ils ont perdu sur des joueurs qui étaient plus forts, mis à part peut-être le petit Enzo Cuoco qui a fait un exploit, parce qu'il était 180 mondial et il bat le 70e mondial au premier tour. Mais voilà, la plupart des résultats sont logiques, parce que ben, effectivement, on a un niveau moyen de nos joueurs, soit qui sont pas vraiment en forme, quand on prend Gaël, qui n'a quasiment pas joué. Gaël Monfils, pardon, qui n'a quasiment pas joué la saison sur tabac, il avait fait qu'un match. Joe Tsonga, qui lui, ben, est souvent blessé. Richard Gasquet, qui lui revenait aussi. Donc voilà, la plupart des joueurs étaient soit blessés, soit vraiment hors de forme. Donc c'est tout simplement logique. Et chez les filles, c'est exactement la même chose. Nos joueuses sont pas forcément au niveau. Donc effectivement, c'est un grand sujet. La Fédération française en parle depuis pas mal de temps. On a un nouveau président, un nouveau DT, une nouvelle équipe. Est-ce que ça va changer les choses? C'est pas quelque chose qu'on change en 3 ou 4 ans. On voit aussi que les Américains mangent un peu leur pain noir parce que c'est la première fois depuis 30 ans qu'ils n'ont pas un joueur dans le top 30.
Il n'y a pas le problème du tennis français. On va rester sur le tennis français. Oui, c'est qu'il n'y a pas de... Là, vous avez cité Gasquet, Tsonga, etc. Une génération qui est finalement assez âgée aujourd'hui. Il n'y a pas de relève derrière.
Ben, c'est surtout ça, c'est que effectivement, en plus, on a ce que beaucoup de gens ont appelé les fameux quatre mousquetaires avec Gasquet, Simon, Monfils et Tsonga. Ils sont voilà, on a une génération effectivement qui était tout simplement exceptionnelle, même si ils n'ont pas gagné de Grand Chelem. Il y a eu des finales, il y a eu des demi-finales de Grand Chelem, mais effectivement, là, la relève est pas là. On pensait que il y avait Lucas Pouille, mais bon, pas mal de blessures et pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a Hugo Humbert qui est un peu plus jeune, qui a 22 ans, qui est actuellement 30 mondiales, mais effectivement on n'a pas, comment dire, on n'a pas, comme à une époque, il y a encore quelques temps, beaucoup de joueurs qui tournent autour de la 100e, 120e place mondiale et qui allaient monter tout doucement au classement. Là c'est vraiment de l'épiphénomène, un joueur par-ci par-là, mais effectivement le gros souci c'est qu'on n'a pas la relève, même dans les années à venir. On a un peu Hugo Gaston qui est là à la 150e place mondiale, qui avait très bien joué ici l'année passée à Roland-Garros. Alors on redescend encore un peu plus bas, il y a deux jeunes joueurs qui s'appellent Harold Maillot et Arthur Cazot qui sont aux alentours eux de la 100e place mondiale, qui sortent un peu des juniors, mais on sait que le passage junior-adulte est compliqué, donc c'est un gros souci. Et effectivement ça se fait pas en 4-5 ans, ça c'est une certitude. Maintenant je pense que la fédération est en train de revoir aussi la formation, l'entraînement, un peu tout.
Précisément, à quel âge on détecte un futur champion? À l'occasion de la rencontre hier soir entre Raphaël Nadal et Richard Gasquet, on a retrouvé des images des deux joueurs qui avaient à peine une dizaine d'années, qui déjà se rencontraient, de futurs champions en herbe. Vous êtes entraîneur pour la French Touch Academy, est-ce que vous la voyez cette relève?
Après c'est là le paradoxe, c'est que très jeune, il faut que les enfants puissent beaucoup jouer au tennis pour avoir un volume de jeu qui est important, mais il ne faut pas non plus aussi qu'ils soient saoulés par le tennis et à 15-16 ans complètement craqués. Parce que sur une masse, moi je l'ai vécu, j'ai fait toutes les détections à l'âge de 9-10 ans, et on était 40 au début, et sur les 40, et ben vous regardez 10 ans après, il y a eu Seb Grosjean, il y a eu Arnaud Clément, et après on descend un petit peu au classement, et on a une génération où il y a eu deux joueurs quand même qui étaient top 10, et sur les 40, il y en a 5-6 qui étaient au moins dans le top 150 mondial. Maintenant, c'est là où il faut être assez fin. Moi, je suis pas pour, comme très souvent on dit, voilà, ah bah il a du talent, il joue bien au tennis, il est élégant. Non, non. C'est pour moi, on détecte aussi les joueurs sur la côté tennis. C'est la préparation, arriver à l'heure. Voilà, des choses assez basiques, mais sur lesquelles on peut se reposer. Et ça se travaille pas forcément. C'est difficile à acquérir ces choses-là. La technique, le tennis, ça se travaille. Mais un coup droit en revers, ça se travaille. Mais l'envie d'être présent, vous voyez, l'aspect physique aussi, ça se travaille. C'est difficile à travailler. Donc, ça se voit vers 12, 13 ans, 14 ans. Mais les bons à 12 ans ne sont pas forcément les bons qui ont 18 ans. Par contre, il y a une valeur sûre. C'est que quand vous jouez bien chez les juniors, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, très souvent, les juniors, vous les retrouvez. Là, on voit chez les Italiens. Musetti a été quasiment champion du monde junior il y a 2 ans. Donc, voilà. À 17, entre 16 et 18 ans, là, vous pouvez vous dire, là, on a des bons joueurs ou des bonnes joueuses.
Est-ce qu'il y a assez de licenciés aujourd'hui en France chez les plus jeunes?
Bah après, c'est un peu le problème. Comme étant au quotidien avec des jeunes, ben, c'est aussi maintenant la mentalité de passer un peu plus de temps aussi sur les jeux vidéo. Voilà, et puis les jeunes maintenant, c'est de la consommation. J'aime pas, ben voilà, je vais vite sur autre chose. Le problème du tennis, et c'est le souci maintenant, il faut essayer d'y travailler, c'est que tant que vous n'avez pas une maîtrise un peu technique, vous ne pouvez pas vous amuser. Et cette maîtrise technique, vous ne l'avez pas en un an ou deux ans. C'est ça le gros souci du tennis. C'est après, aux enseignants, aux entraîneurs, à la fédération, d'essayer d'apporter aussi des outils pour que ça aille, entre guillemets, un peu plus vite et un peu plus simple. Ils essayent de faire ça, mais c'est pas simple.
La Fédération française de tennis, justement, depuis hier soir, tous les journalistes essaient d'obtenir une réaction après ce fiasco français. Toujours rien, ça vous étonne ce silence?
Alors, ça m'étonne parce qu'en plus, on a un nouveau président de la Fédération française qui est en février, on a un nouveau DTN, on a un nouveau numéro 2 du tennis et des anciens. Là, pour le coup, c'est vraiment des anciens joueurs. Le président a été ancien joueur, le DTN est Nicolas Escudé, le numéro 2 de la direction technique est Paul-Henri Mathieu. Je trouve ça un peu bizarre que personne se positionne. Maintenant, il y a une conférence de presse qui se fait le jour de la finale homme, le dimanche, le dernier jour de Roland-Garros. Je pense que là, à un moment ou autre, il va falloir qu'il réponde à quelques questions. Mais on ne peut pas non plus tomber sur une nouvelle équipe qui vient d'arriver en février, et on est Roland-Garros, on est en juin. Maintenant, je pense quand même qu'à un moment, il faut... Alors, à moins qu'ils travaillent énormément leur communication, je le pense aussi, mais à un moment...
Il faut répondre, il faut parler. Merci beaucoup.
C'est ce que je veux dire. Merci juste beaucoup. Pour finir, un moment, un autre, eh ben, faut prendre les coronets et y aller, voilà, tout simplement.
Merci, ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci Julien Varlet, consultant pour Canal Plus International.
Voilà donc pour cette page spéciale sur le tennis français à Roland-Garros. C'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Notre rétro sonore, comme chaque samedi, nous sommes donc le 5 juin, direction l'année 1967. Israël lançait une vaste offensive contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, une guerre express qui prenait de court ses voisins. La guerre des 6 jours a permis aux Israéliens de conquérir le désert du Sinaï, le plateau du Golan, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est notre rétro du jour avec des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens.
Les historiens peinent toujours à éclairer toutes les facettes de ce conflit éclair lors duquel Israël vainquit 3 armées arabes. Le 5 juin 1967, l'aviation israélienne détruit en quelques heures la quasi-totalité des avions de combat égyptiens. Le ralliement de la Syrie et de la Jordanie à l'Égypte n'y feront rien.
En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest. Objectif lointain, El Kantara et le canal de Suez. Objectif immédiat, la ville et le camp d'El Arish.
Tom Segef est historien, il a écrit un livre sur la guerre des 6 jours. Pour lui, elle est encore en cours.
La guerre des 6 jours ne s'est en réalité jamais terminée. Le 7e jour dure depuis 50 ans. Cela nous affecte, nous et les Palestiniens, sur une base quotidienne, chaque jour, chaque minute.
Dans le désert, les blindés égyptiens immobilisés définitivement sont nombreux. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs. La route vers Suez est maintenant ouverte et rien ne peut désormais stopper la poussée des blindés du général Dayan. Pendant ce temps, une autre colonne va réduire la bande de Gaza, ce territoire en doigt de gant entre Israël et la mer. C'est ici que vivent dans des conditions précaires des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Le terrain est incertain. Plusieurs journalistes en ont fait ici la tragique expérience.
Après la guerre des 6 jours, Israël disposait d'une défense en profondeur. Israël avait désormais des territoires qu'il pouvait utiliser comme monnaie d'échange contre la paix et pour sa reconnaissance. Pour la première fois de leur histoire, ils disposaient de zones de tampons autour de leur propre État. Le fait que le Sinaï fût occupé par les Israéliens fut considéré comme quelque chose d'extraordinaire, bien qu'ils ne l'occupaient pas suffisamment, faute de force. Entre 1967 et 1973, le Sinaï fut une zone tampon cruciale. Ils avaient aussi pris les hauteurs du Golan aux Syriens, une zone stratégique absolument vitale qui offrait aux Israéliens toutes sortes d'avantages au nord. Ils s'étaient aussi emparés de la Cisjordanie, une zone aussi stratégique et sensible sur le plan opérationnel que religieux.
La conquête de Gaza sera l'une des plus meurtrières de la campagne. Il faudra réduire rue par rue cette ville de 100 000 habitants. Même quand le général Husni aura signé la reddition de ses troupes, il faudra encore lutter contre les tireurs isolés. De toutes les nations musulmanes, c'est l'Algérie qui manifestera le plus nettement sa solidarité avec les pays arabes engagés dans le conflit. Anglais, Américains et Israéliens sont associés dans le même ressentiment et le mobilier du centre culturel américain subira les effets de la colère des manifestants. Avant que les armes ne se taisent, le général Dayan, ministre de la guerre, avait précisé que les objectifs de sécurité étaient atteints et rappelé ce que fut la bataille de Jérusalem.
Ils avaient effectivement augmenté le territoire israélien de peut-être 70%. Donc, en effet, doublé la superficie du pays. Cependant, ils ont également ramené un certain nombre de problèmes et pour une grande part, les Israéliens se sont rendus responsables des problèmes à venir.
L'alerte avait été donnée dès la première heure de la bataille. Pour venir à bout de la résistance des éléments jordaniens, il faudra malheureusement livrer des combats acharnés dans la vieille ville. Après 48 heures de lutte, la ville arabe tombera. 2000 années de dispersion se trouvent miraculeusement effacées. et le mur des Lamentations, où le général Dayan et les membres du gouvernement sont venus immédiatement en pèlerinage, est devenu pour les Israéliens le mur de la joie.
Les Israéliens, avec leur longue tradition de construction de colonies de peuplement, commencèrent à en construire sur les hauteurs du Golan, en Cisjordanie et dans le Sinaï. Sans doute pour des raisons politiques autant que religieuses que tout le monde peut comprendre, ils en construisirent en Cisjordanie parce que c'était une part de l'Israël biblique. Les Israéliens avaient gagné de l'espace sur la carte, mais ils avaient ruiné l'intérêt de ces espaces en construisant dessus. Avant la guerre, Israël avait été victime du blocus égyptien du détroit de Tyran. Israël avait souffert des attaques de l'artillerie syrienne et des menaces sur leur approvisionnement en eau. Les barbelés jordaniens avaient coupé en deux Jérusalem, empêchant les Israéliens d'accéder à la vieille ville. En six jours, les Israéliens avaient mené une opération de défense stratégique en attaquant l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, chacun à leur tour. Les résolutions des Nations Unies, qui mirent fin à la guerre, demandèrent aux Israéliens d'abandonner des parties de leur territoire pour la paix.
La phase militaire du conflit israélo-arabe est terminée. Elle aura été fulgurante. La phase diplomatique commence. Elle sera sans doute infiniment plus longue.
Plus de 10 ans plus tard, et après une guerre désastreuse, Israël rendit la péninsule du Sinaï en échange d'un accord de paix. Plus de 20 ans plus tard, Israël et la Jordanie signèrent aussi un accord de paix. Aujourd'hui encore, Israël ne se sent pas plus en sécurité qu'elle ne l'était avant la célèbre guerre des Six Jours, en juin 1967.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Et c'était Clara Luciani. On aime beaucoup Clara Luciani dans le programme ici sur SBS. Et cette chanson, Le Reste, qui fait partie de la sélection musicale pour ce mois. Il est 13h42. On fait une courte pause et on parle encore une fois de musique avec l'Impératrice, leur nouvel album. Mais c'est tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, aujourd'hui, on a le plaisir sur Radio SBS d'avoir Charles et Flore. Ils font partie d'un groupe, c'est deux d'un groupe. On va en parler, il y a multiples facettes dans ce groupe. C'est l'Impératrice. Bonjour Flore, déjà.
Bonjour.
Et bonjour Charles.
Bonjour.
Alors, je disais en introduction, vous êtes faites partie du groupe L'Impératrice. Alors, expliquez-nous un petit peu le groupe, comment tout a commencé pour vous. C'était en 2012, je crois, Flore, c'est ça?
Oui, alors moi, c'est peut-être plutôt Charles qui doit en parler, parce que moi, je n'étais pas là à cette période, justement. Je suis arrivée après.
Bah, allons-y, Charles, alors.
Je prends le relais. Oui, exactement. En 2012, à l'époque, j'étais seul. J'étais journaliste, critique musicale. Et je me suis mis à faire de la musique comme ça, assez spontanément, pour, je pense, essayer d'asseoir un petit peu mon propos et ma légitimité sur mes critiques, mes articles. Parce que l'anecdote, c'est qu'à l'époque, j'avais écrit une très mauvaise critique sur un album que j'avais pas tellement aimé, et le groupe m'avait renvoyé un message en me disant « Mais est-ce que t'as la moindre idée de ce que ça représente comme travail, de faire un album, d'enregistrer, etc. » Et ça m'avait donné un déclic. Par curiosité, j'ai commencé à composer. Et tout a commencé comme ça. J'ai ensuite rencontré Annie, qui est au clavier avec moi, qui m'a présenté Tom, le batteur, qui nous a présenté David, ensuite le bassiste, etc. Et le groupe s'est formé un peu de cette façon-là. Il y a un EP qui est sorti entre-temps, qui s'appelait L'Impératrice. Mais l'idée du live, en tout cas, c'était de créer quelque chose de très organique avec des musiciens. Donc, on a été 5 musiciens pendant, je dirais, 2 ans. On a tourné en instrumental et on a fait des choses assez rigolotes, comme une tournée en Inde, complètement, qui est arrivé de façon complètement hasardeuse. Et c'était amusant, mais il manquait quelque chose. Il manquait un petit peu ce côté vivant, de ce côté habité, on va dire, de la voix. En sachant que moi, j'aimais bien reproduire le son de la voix avec des vieux instruments, des vieux synthétiseurs des années 70. Et puis j'ai rencontré Flore en 2015. Et là, ça a beaucoup changé puisque forcément l'arrivée de Flore nous a donné, enfin, a donné au groupe une autre dimension, une autre visibilité. On basculait dans un format un peu plus chanson et voilà, ça a été très différent et ça n'a fait qu'évoluer depuis.
D'accord. Alors, le si je lis votre page Wikipédia, on dit que c'est de la pop et du disco. Alors, c'est toujours compliqué pour les musiciens de dire qu'on est dans une boîte ou dans une autre. Mais comment vous labellisez, en fait, votre type de musique?
Je dirais que c'est compliqué, mais.
Ouais, moi non plus, enfin, je trouve que c'est très compliqué de nous mettre dans des cases. En plus, on a forcément, surtout cet album Takotsubo, je trouve, qui est vraiment un mélange d'énormément d'influences. Donc, c'est. Moi, je trouve que les pièces maîtresses de cet album, ce serait le groove et l'émotion. Donc, je sais pas, on peut dire qu'on fait du groove émotionnel. C'est très bizarre, non?
J'aime bien.
C'est bien le groove émotionnel.
C'est un peu étrange quand même. Non, mais ça donne trop. En même temps, ça donne trop une grille de lecture, je trouve, à notre musique, et c'est pas forcément nécessaire en fait. Moi, je préfère que les gens ils aient pas d'a priori et qu'ils écoutent sans vouloir vraiment nous mettre dans une case directement.
Je pense qu'il y a une base disco, mais qui est plus là pour, comment dire, comme un prétexte pour l'omniprésence de la basse et le côté dansant, on va dire. C'est souvent des batteries très binaires et tout, donc ça, c'est vraiment les fondements du disco, de la musique disco. Mais le reste, c'est vraiment énormément d'ingrédients, disons autant d'ingrédients que de musiciens et de parcours différents parmi nous.
Alors, la question que tout le monde a dû vous poser, mais c'est vrai que ce Covid, il a quand même changé les choses. Là, aujourd'hui, vous sortez un album, donc cet album va pour vous, on va parler un petit peu de la genèse de cet album, mais le fait de pouvoir aller, entre guillemets, défendre ou présenter cet album sur scène, à quel point c'est important pour un groupe comme le vôtre?
C'est au-delà de l'importance, c'est même crucial, quoi. C'est-à-dire que pour nous, c'est comme on est un groupe, quand même, on est dans un label indépendant en plus, et on est un groupe de live. Donc, c'est non seulement nécessaire pour nous, déjà du point de vue de comment on a développé l'Impératrice au fil des années, et c'était essentiellement sur le live et sur voilà, tous les concerts, mais aussi, pour être très honnête, économiquement, c'est très difficile aussi pour nous de s'imaginer défendre cet album sans pouvoir faire de concerts. Donc, pour nous, on est ce qu'on appelle intermittent du spectacle en France. Je ne sais pas si vous connaissez ça en Australie, mais c'est un système qui permet de financer la création artistique et les artistes, mais ça repose entièrement sur les concerts. Donc nous, c'est vrai que ça, c'est un énorme risque qu'on a pris à sortir un album en pleine pandémie, que ce soit, voilà, pour mettre cet album en valeur et pour lui donner la vie qu'il mérite sur scène, et aussi pour nous, économiquement, pour survivre en tant que groupe, quoi.
Donc cet album, un peu parlez-nous-en un petit peu, Charles. Qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on entend sur cet album, et en quoi cet album est important dans la vie de l'Impératrice aujourd'hui?
C'est un album déjà qu'on avait décidé de faire, de composer en rupture avec ce qu'on avait pu faire précédemment, que ça soit dans la façon d'assumer nos influences. Il y a toujours eu plein d'ingrédients dans l'Impératrice, il y a toujours eu plein d'influences, mais un petit peu cachées ou retenues. Je dirais que sur Matahari, il y avait un côté très chanson, un côté très vaporeux, hors sol, assez nocturne. Qui a beaucoup moins dans Takotsubo. Donc Takotsubo, cet album, c'est vraiment une rupture, quoi, par rapport à avant. On est beaucoup plus sous un soleil californien, on va dire, avec des influences très G-funk, très funk, très soul, très hip-hop, même jazz, avec toujours cette pointe de classique dans l'harmonie qu'il y a depuis le début chez l'Impératrice. Et c'est un album pareil au niveau des paroles, mais Flore en parlera mieux que moi, mais qui est encore une fois moins hors sol, qui est plus intime, qui se confronte au quotidien, aux émotions, et ce qu'on faisait pas avant. Là, on développait un imaginaire un petit peu cinématographique, un peu vaporeux. Là, on est beaucoup plus proche, je pense, des gens. Il y a un côté peut-être plus fédérateur.
Flore, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je pense qu'il a tout dit, c'est exactement ça. Et c'est vrai que les textes, en tout cas pour parler de ce qui me concerne, on a vraiment essayé de faire quelque chose de différent et de créer un vrai tournant dans les textes, et quelque chose de beaucoup plus juste et intime et proche de la réalité. Quoi.
Et donc, dans cette année 2020, comment vous avez écrit cet album ? Comment il est né, cet album ? Parce qu'il y a eu des périodes de confinement. Est-ce que vous avez quand même pu vous voir ? Est-ce qu'on peut dire que vous avez pu vous voir ? comment c'est né, tout ça ?
Non, ça a été assez compliqué parce qu'en fait, l'album était déjà quasiment fini. Hein. On a fini d'enregistrer l'album en 2019. Donc, l'album a plutôt été fait en 2019, en fait. En tout cas, pour ce qui est de la composition et de l'enregistrement. Et après, en fait, quand le Covid est arrivé, nous, on était repartis en tournée, on faisait un peu une tournée de pré-sortie. Et en fait, du coup, on s'est retrouvés complètement à l'arrêt. On n'était pas du tout tous ensemble, en fait, ça, on peut le dire. On était complètement dans des endroits séparés en France. Mais on a continué à travailler ensemble à distance. Déjà, on a fait un morceau de A à Z qui s'appelle Submarine, donc qui est dans l'album, qu'on a mis dans l'album, mais qui a été fait vraiment pendant le confinement à distance, chacun de son côté. Et Charles, surtout, a pris ce temps, il va pouvoir en parler mieux que moi, a pris ce temps pour vraiment se repencher sur les productions de l'album.
L'idée, c'était d'essayer de retrouver un petit peu, de se réapproprier la musique. C'est vrai que je le dis souvent, mais quand on va en studio enregistrer sa musique, on confie un petit peu ses morceaux au producteur avec lequel on est. Nous, en l'occurrence, on a travaillé cet album comme le précédent avec Renaud Létang au studio Ferber à Paris, et Thomas Moulin qui a enregistré. Et parfois, un producteur peut vous faire prendre tellement de recul par rapport au morceau et s'immiscer tellement dans un morceau qu'on peut s'en sentir un petit peu dépossédé. Là, l'idée, c'était de profiter du premier confinement en France pour trouver une direction qui était la nôtre, un son qui était le nôtre, un son de voix, etc. Donc, je me suis vraiment penché sur la production. Et puis, l'idée, c'était aussi de préparer le terrain pour la personne qui allait mixer après, qui est Neil Pogue, en l'occurrence, qui est un maître... dans la science du mix, et de lui donner vraiment les meilleures indications pour qu'il puisse mixer sans prendre trop parti, mais juste en faisant son travail de mixeur, quoi. Et on a beaucoup bossé, j'ai beaucoup bossé sur ce côté mélodie très en avant, un son de voix très clair, très proche. Je voulais que, comme les textes que chante Flore sont quand même très intimes, je voulais qu'on ressente ça dans le son de la voix. Je voulais que les voix soient très très proches de l'oreille. C'était hyper important, et ça, c'est un truc que j'ai découvert en le faisant, en fait, parce que j'avais aucune prédisposition à le faire, et c'était un peu un hasard, mais je crois qu'on s'en est bien sorti.
Et l'international dans tout ça, parce que la vie d'un album, c'est bien, il y a la France, mais pour vous, il y a aussi un marché international. Vous le disiez, vous avez fait une tournée presque improbable en Inde, mais bon, ici on vous connaît, on est en Australie, il y a vraiment un marché et un buzz autour de la musique française à travers le monde. Vous en profitez également. Vous le vivez comment, ça ?
Enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, mine de rien. Ça a vraiment commencé avec Matari. On a pu faire, surtout en 2019, on a fait une tournée américaine. On est allé au Mexique aussi, en Turquie. Donc c'est vrai que c'est des territoires qu'on n'avait pas vraiment explorés. On s'était concentré vraiment sur l'Europe au début. Et pour nous, ça a été une source d'inspiration immense. Ça nous a vraiment emmener ailleurs, en tout cas dans la composition de Takotsubo. Je pense que ça a eu une grosse influence, et surtout c'est complètement surréaliste pour nous, petits Français, de penser qu'on peut être écouté à l'étranger par des gens qui en plus comprennent absolument pas ce qu'on raconte dans les chansons. Donc c'est complètement surréaliste, et c'est génial. On est hyper heureux de pouvoir rayonner autant à l'international, parce que c'est vrai que c'est une énorme partie de notre public aujourd'hui, et on l'explique toujours pas, on comprend pas mais on est très heureux. Après, c'est vrai que l'Australie, c'est malheureusement très très loin, donc je sais pas si on va y aller tout de suite, mais nous, on aimerait beaucoup. Cool, c'est sûr.
Il y a des processus pour venir, hein, quand même. Hein. C'est très très loin, mais c'est pas si loin que ça du cœur. Il y a pas mal d'artistes français qui à l'époque arrivaient à tourner. Il faut simplement, c'est vrai que le vaccin devra passer par là, c'est sûr.
Ouais. Mais nous, après, on serait ravis. Hein. Moi, je suis déjà allé en Australie et j'adore cet endroit.
D'accord. Bah, écoutez, merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. C'est très sympa. Je sais qu'il est peut-être un peu tôt pour vous en France pour faire cette interview. Donc, merci d'avoir pris le temps. Et puis, on va se faire un plaisir d'écouter un titre de l'album. Merci.
Merci beaucoup.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
principalement dans l'actualité aujourd'hui, les autorités sanitaires du Victoria qui continuent d'enquêter sur l'épidémie de coronavirus à Melbourne, alors que 5 nouveaux cas de transmission communautaire ont été enregistrés. Voilà, c'est la fin du programme en français sur Radio SBS. Prochain rendez-vous avec nous, ben c'est demain à 13h avec Jean-Noël. Et quant à moi, je vous retrouve mardi, jeudi et samedi la semaine prochaine à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.